Quelle profondeur! Quelle hauteur! À quelle hauteur Dieu nous élève dans un, par un simple verset! À quelle profondeur de pensée et de conseil il nous fait descendre, il nous fait aller ainsi en nous présentant l'Écriture. Quelle unité en même temps dans la Sainte Écriture que nous avons le privilège de lire ensemble et d'écouter aussi. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. En un mot encore sur les promesses générales, les autres aussi, les six autres lettres mangeront de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. N'est-ce pas? De même que ceux d'Éphèse comme des cinq autres n'auront pas à souffrir de la seconde mort, bien entendu. Les promesses faites à chaque assemblée, au fond, seront la part de tous les saints, de tous les élus, de tous les chrétiens. Seulement, ces promesses sont faites en rapport avec l'épreuve à laquelle a été soumise l'Église, donc à laquelle la promesse est faite. Autrement, il est bien entendu que nous aussi, nous ne sommes pas de l'Église d'Éphèse à proprement parler, nous savons aussi que nous mangerons de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Ce sujet, pas impossible, semble-t-il, de concilier les deux points de vue qui ont été présentés là. Sans faire réfléchir le point fondamental et évident que le trône de Satan ne peut pas être autre chose que le monde. Et le lieu où Satan habite ne peut pas être autre chose que le monde. L'Écriture est là pour nous justifier dans cette affirmation. Satan est devenu le chef de ce monde, le prince de ce monde. Proprement, il est devenu après la croix, ou à la croix, puisque il a conduit le monde à rejeter Christ. Et le fait qu'il est le chef de ce monde prend sa force à la croix et après la croix. Il n'y a donc pas de question possible sur la force des deux expressions qui sont données là à propos de Satan. Mais alors, il est possible également que la question qui a été soulevée ait un certain intérêt dans ce même sens. Il est possible que Pergame se fût installé dans le monde d'une façon qui lui échappait à elle-même, ou dont la gravité et la réalité lui échappaient, dont il était impossible de mesurer la force. Et je citerai ici, s'il se trouve que sur ce propos de cette assemblée-là, j'ai lu quelque part le texte suivant qui pourrait alors nous expliquer, nous aider à comprendre le tout. Les chrétiens, à ce moment-là, étaient dans le monde, non pas d'une façon proprement mauvaise. Lorsque des chrétiens vont dans le monde qui est de toute évidence mauvais, ils en ont en général la conscience. Mais on peut mondaniser sans avoir la conscience que l'on mondanise. Et c'est un peu le cas de tout le monde ici, sans nul doute. Et pour ne pas prolonger, j'ouvre une parenthèse, mais je ne pourrais pas laisser passer. De nos jours surtout, que notre vigilance sur toutes ses formes et en particulier le monde religieux de nos jours, hein, vers lequel nous portons plus d'une fois des regards, et peut-être plus que des regards. Je reviens au texte. J'ai lu quelque part à propos de cette phase de l'Église qu'un historien de l'époque, célèbre d'ailleurs, Tertullien, je le nomme, donne dans ses textes des phrases, des paroles exprimées par les chrétiens de ce temps. En voici deux. Une, les chrétiens de ce temps disaient, pour expliquer l'importance qu'ils avaient dans l'Empire ou dans le royaume, n'est-ce pas, ils disaient, et pour montrer les conséquences fatales qu'auraient pour les autorités de leur chercher quelque guerre que ce soit, vos flottes et vos armées, nous les remplissons. Autrement dit, les flottes et les armées impériales à ce moment-là étaient remplies de personnes, de chrétiens engagés ainsi au service de l'empereur. Une autre phrase du même ordre, c'est que si nous quittions vos villes, elles deviendraient des déserts. Voilà donc une mondialisation inconsciente. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer, répondre à la question soulevée, que le Seigneur dit, je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, parce que lui le savait, mesurait la gravité d'un tel état, n'est-ce pas, alors que Pergame n'était pas à même de sentir la gravité de sa défaillance. Il y a même une très grande leçon pour nous. Il arrive qu'on est dans des milieux chrétiens ou christianisés, on est fier de voir des gens qui sont, par exemple, des protestants et qui occupent de hautes fonctions dans les pays. Cela, c'est visible à l'œil nu, et c'est beaucoup plus généralisé qu'il y a 100 ans à coup sûr, et même parmi nous. Au lieu que ce soit un signe de la prospérité du témoignage et de l'Église, retenons que c'en est une faiblesse. Car le frère, par lequel j'ai, moyen duquel j'ai eu ces textes sous les yeux, ajoutait à la suite de la citation qu'il faisait de l'historien dont j'ai donné le nom, Pierre et Paul auraient-ils parlé ainsi? Ils n'auraient pas parlé ainsi. Le christianisme de Pierre et de Paul n'était pas le christianisme de Pergame, et souvent pas l'autre, n'est-ce pas? Donc le Seigneur ne commence pas par un reproche ouvert, si l'on veut, il définit nettement la position de la façon la plus forte, et c'est quand même un reproche, et c'est une condamnation. Il est impossible de dire que quand des chrétiens sont là où Satan habite, où est le trône de Satan, qu'ils sont à leur place. Non. Mais, alors, ce qui confirme encore cette remarque, n'est-ce pas? Ce qui la confirme, c'est ce qui suit. Et ce que les fidèles de Pergame ne sentaient pas dans cette mondialisation insidieuse et progressive qui était telle qu'ils remplissaient les fonctions les plus diverses et qu'ils étaient devenus des éléments importants dans la vie de l'Empire, c'est la suite. Et cet état de force apparente qui aurait prêté l'Église et de nos jours aussi, nous risquons bien de croire que si le témoignage est formé de frères d'élite, élite au sens humain du mot, il sera beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Attention, la suite dit, mais nous n'avons qu'à interpréter, dans cet état de choses apparaissent les mots qui nous sont donnés dans les versets qui suivent. Cette force apparente de l'Église, apparente parce qu'elle était constituée par des gens importants et qui comptaient dans le monde, tandis que Paul et Pierre, et Paul surtout, il était le rebut de la création, une balayure du monde. Et là, à ce moment-là, et en cela, était le secret de la force de l'Église à ce moment-là. Ici, cette force apparente, cette puissance apparente, cette prospérité apparente qui faisait que l'Église et le monde étaient mêlés de cette manière et leurs intérêts étaient mêlés, était une cause de faiblesse qui a ouvert la porte à des hérésies, puisque c'est, il nous est parlé d'Antipas et que nous sommes dans la période de l'arianisme. Je n'en dis qu'un mot, nous n'avons pas le temps, c'est-à-dire qu'on niait la divinité du Seigneur, sa déité éternelle et autre chose semblable qui en découle. Toute cette prospérité et puissance apparente de l'Église ouvrait la porte. Satan, quand il a réussi à la mondialisation de l'Église d'une manière, j'insiste sur ceci, d'une manière distinguée, pour employer un mot humain et mondain, d'une manière distinguée, d'une manière qui élève l'homme, n'est-ce pas? Et quand Satan a réussi cela, il tient l'Église dans sa main. Et voilà une mauvaise doctrine. Et voilà Antipas, qui est fidèle, et qui a été mis à mort, n'est-ce pas, dans cette difficulté de doctrine. Et en plus, un peu plus loin, voilà la porte ouverte encore à la corruption, à tout ce qui est présenté dans l'expression de la doctrine des Nicolaïques. Il y a un très grand enseignement pour le témoignage d'aujourd'hui, où nous sommes très portés à croire que la qualité humaine des témoins est la force du témoignage. La qualité humaine et mondaine est la force du témoignage. Que les frères qui n'ont aucune, qui n'ont pas de ces qualités-là humaines, ne soient pas par ce pêle-mêle-là une force dans le témoignage, nous sommes d'accord. Ben, mais ce n'est ni les qualités, ni l'absence de qualité humaine qui qualifie des témoins et qui sont la source de la puissance d'un témoignage, c'est la piété chez les uns et chez les autres. Il me semble qu'il ne serait pas mauvais pour chacun de nous, n'est-ce pas, que nous tirions un enseignement direct de cela, même sans remonter jusqu'à Pergame, en remontant à un temps plus proche. Et que nous pourrions nous arrêter devant cette condamnation, n'est-ce pas, ou cette déclaration, et sûrement, dans une mesure, nous pensons aux frères et aux sœurs dans les assemblées, dans une mesure, nous avons à reconnaître que nous sommes, que, à recevoir ceci, je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Eh bien, je dis cela, non pas d'une façon générale, parce qu'il ne s'agit pas, bien entendu, de sortir du monde, ce n'est pas possible, mais c'est moralement parlant. Eh bien, je veux dire ceci, encore une remarque pratique, et très opportune, semble-t-il, à quiconque réfléchit un peu et voit l'évolution des choses, par rapport au siècle dernier, nous avons subi une déchéance analogue à celle de Pergame par rapport à Smyrne. C'est-à-dire qu'à Smyrne, ou bien une déchéance analogue à celle de Pergame par rapport à Paul, par exemple, n'est-ce pas ? Paul et Pierre ou Paul auraient-ils parlé ainsi ? Si nous en allons, vos villes deviendront des déserts. Eh bien, au siècle dernier, nous avons eu des frères et des sœurs, n'est-ce pas, qui étaient animés beaucoup plus de l'esprit de Paul que nous, et dont la place et la situation dans le monde, bien loin d'être considérée comme un avantage et une condition de force du témoignage, ne l'était pas. La preuve est que plus d'un d'entre eux, nantis au départ de ces privilèges considérables, a commencé la carrière en les abandonnant. Nous parlons, pas, conduit par le texte même, que le danger que le monde présente, ceux qui parlent ici, se sentent dans ce danger-là, et ils sont, ils courent, n'est-ce pas ? Un malade qui s'ignore est moins bien placé qu'un malade qui sait ce qu'il concerne. Un infidèle qui s'ignore risque de se plonger davantage dans son infidélité. Voilà pourquoi, pour ainsi dire, le Seigneur donne ici un diagnostic sur l'état de ses assemblées, celle de Pergame, n'est-ce pas ? Non pas pour aggraver l'état de Pergame, mais pour éclairer Pergame sur son état, afin que, exercée devant le Seigneur, elle demande au Seigneur de sortir de cet état-là. C'est le service de tous les prophètes dans tous les temps, dans l'Ancien Testament. Leur voix se faisait entendre de la part de Dieu pour que seul le peuple en danger, déjà sur une pente difficile à remonter, se reprenne devant Dieu, demande secours à Dieu pour abandonner les mauvaises voies dans lesquelles il s'engageait. Lorsque donc nous entendons ce que l'Écriture dit, nous recevons la lumière qu'elle projette sur notre état présent, nous devons en remercier le Seigneur. Parce que cela est une preuve même qu'il ne nous a pas encore abandonnés. Le Seigneur ne parle plus à ceux qui l'ont abandonné. C'est fini. Éphraïm s'est mêlé avec les idoles, laisse le faire. C'est la plus terrible condamnation morale. De sorte que bien loin que de trouver dures les paroles qui nous sont données ici, nous devons être prompts à les écouter et prompts à en faire pratiquement notre profit. Que ces lectures faites ici ne nous laissent pas après dans le même état où nous étions avant. Parce qu'alors, ce serait un symptôme grave. Il est bien entendu que nous avons affaire aux gens du monde, comme dit l'apôtre au chapitre dans les Corinthiens. Nous ne pouvons pas ne pas occuper des postes dans le monde. Et si quelqu'un, comme on l'a vu dans certains temps, parmi les frères, est appelé par le Seigneur à quitter son poste, et un poste très avantageux, et que ce soit la grâce de Dieu en lui qui lui fasse accomplir cela, béni soit Dieu. C'est un acte de foi brillant. Et cela s'est vu, je le répète, dans le témoignage. Et dans le témoignage, au temps où il a brillé avec une pureté dans les derniers jours, qui se rapprochait de celle du commencement dans les actes. Je tiens à insister sur ceci, n'est-ce pas? Non pas qu'un homme ignorant est nécessairement plus fidèle qu'un homme instruit. Non pas qu'un homme pauvre est nécessairement plus fidèle qu'un homme riche. Et au lieu de mettre homme, disons frère, si l'on veut. Mais le mal gît en ceci, que du moment où nous comptons, ou plutôt nous faisons entrer dans le royaume de Dieu, et nous les comptons comme valables, les valeurs qui sont du royaume, n'est-ce pas, de ce monde, c'est là que nous sommes en danger de sombrer. Ces valeurs, quelles sont-elles pour être un peu précis? Il est facile, sans blesser personne, parce que tout le monde est atteint, il est facile de mettre un nom à certaines d'entre elles. Les capacités naturelles d'un homme, les capacités du vase, son intelligence, son énergie naturelle ne sont pas en eux-mêmes une force nécessairement, un avantage pour le témoin et pour le témoignage. Il s'en faut bien. Et je prends là pourtant des choses qui ont de la valeur. Elles deviennent légitimes lorsque le Saint-Esprit, prenant place, habitant dans cet homme-là, emploie ses vertus pour la gloire de Dieu, et mais alors, qu'est-ce qui est détruit dans cet homme? Sa volonté et son désir de se faire valoir lui-même avec les qualités qu'il a naturellement. Faisons cela, chers jeunes amis. Ce n'est pas un jeune qui vous le dit aujourd'hui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que je le pense. Il y a bien longtemps, que, par la grâce de Dieu, j'ai été arrêté devant ces considérations-là. Et il est bien préférable de les peser au départ que de les peser de les découvrir à l'arrivée. On a manqué sa vie. Étant comblé au départ davantage que l'on aurait pu employer d'une toute autre manière. Un autre élément, un autre. La culture, nous regardons cela en face. Avec la vérité chrétienne, on peut regarder en face tous les sujets. Car la vérité est la vérité de Dieu. Elle a l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la connaissance de Dieu et la science suprême et définitive est celle dans laquelle nous serons plongés dans l'état éternel. Il n'y a pas de vraie science en dehors de celle-là. La culture. Je ne parlerai pas des connaissances techniques, c'est d'un autre ordre. La culture, quelle qu'elle soit, un esprit cultivé dans le monde, un homme qui a un esprit cultivé dans le monde, entre dans la vie avec un passeport que d'autres n'ont pas. Est-il nécessaire qu'automatiquement ce soit un avantage pour un chrétien? Et faut-il absolument qu'un chrétien soit tel? Et s'il est tel, sera-t-il absolument un témoin fidèle? Point du tout. Point du tout. Si ce chrétien utilise, emploie cette culture avec les dons qu'il la suppose pour sa propre gloire et pour le monde, il est il est là où Satan habite. Il est là. Moralement, il est là. Un troisième valeur, très courante et plus palpable, la fortune. Dieu sait que je n'ai rien contre la fortune de quiconque et que nous ne l'envions en aucune manière. Sinon, nous ne serions pas droits en parlant. Eh bien, la fortune qui est aussi... Rappelles-tu quel écrivain disait quelque part « Malheur à l'homme qui est né pauvre !» Ah, mais oui. Dans ce monde, ça n'est un retard que de naître pauvre dans ce monde. Un retard irrattrapable dans la plupart des cas, n'est-ce pas? Avec l'Écriture, nous regardons cela en face et sans avoir à blesser ni à gêner personne. Car nous sommes tous plus ou moins atteints, car si un pauvre aime la fortune, il n'est pas dans un meilleur état que le riche qui est la sienne. Cela compte comme valeur humaine, cela compte dans le royaume de Satan. Est-ce que la fortune est une monnaie valable dans le royaume de Dieu? Non pas. Impossible à soutenir qu'elle l'est. C'est impossible. Et alors, n'est-ce pas, le mal n'est pas dans ces choses. Il n'est pas dans la culture elle-même, dans l'instruction. Il n'est pas dans la fortune. Il n'est pas dans la naissance, la haute naissance. Il y a eu des frères de haute naissance. Le mal est dans l'attitude qu'a un chrétien vis-à-vis de ces éléments. Il est le mal ou le bien sont dans la manière dont le chrétien sait se comporter vis-à-vis de ces éléments-là. Et quand nous nous comportons comme les inconvertis du monde qui n'ont entre leurs mains et ayant cours entre eux que des monnaies de cette espèce, nous sommes moralement là où Satan est. Dans le trône de Satan. Lorsque nous laissons ces choses à leur place, en accomplissant la tâche où nous nous trouvons, et là, il y a une parole remarquable, aussi remarquable qu'elle est simple dans une épître, et connue de tout le monde, que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé. Je le cite. Eh bien, si nous sommes exercés pour laisser ces valeurs à leur place, même si nous les gardons et si nous veillons à ce que notre fortune ne vienne pas jouer un rôle néfaste, même pour un bien apparent dans le royaume de Dieu, où les élites nous sont toujours montrés comme n'ayant pas à voir, comme pardon d'extraction. Et celui qui en est chef avait à sa suite, parmi ces personnes qui le suivaient en boitant, mais qui le suivaient quand même, des gens qui étaient obligés pour calmer leur faim de froisser des épines. Avons-nous oublié cela, et nous relisons-nous cela un peu dans les assemblées, même si le résultat, l'effet de ces lectures n'est pas aussi profond et efficace qu'on peut le souhaiter, l'effet peut être quand même réel et arrêter chacun de nous, empêcher chacun de nous de faire un pas de plus dans cette pente. Comme le christianisme est admirable, comme il est puissant vraiment, il fait face à tout. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, prononce-la de Pergame. Prononce-la. Et faut-il que je le dise, peut-être bien. J'avons eu des frères dont nous honorons la mémoire. Je le redis encore. Il paraît qu'il est nécessaire que certaines de leurs oreilles l'entendent. Mais nous sommes là pour faire face aussi à la responsabilité qui nous incombe, et nous devrions être là pour le faire, nous devrions, et les frères les plus âgés en tête, fidèles jusqu'à la mort. La fidélité générale, globale, vague, et qui n'engage rien ni personne, c'est un mensonge. Eh bien, nous avons eu des frères que je considère comme des conducteurs morts, dont plusieurs sont partis, ayant en main ces malheurs humains. Ceux qui étaient instruits et hautement capables n'ont pas perdu leur instruction, leur culture. Nous savons à quoi ils l'ont employé. Vous ne voyez pas leur nom cité parmi les élites de leur temps, pas du tout. Sauf peut-être quelquefois sous la forme d'un regret que ces personnes de valeur ne soient pas venues aider en leur temps à la vie du peuple, du pays auquel ils appartenaient. Ces regrets ont été exprimés et en très haut lieu. Mais la qualité d'esprit qu'ils avaient, nous savons que le Seigneur, c'est le Seigneur qui s'en est servi, il a fait d'eux ses esclaves, et à l'instar de Moïse, au lieu de rester, puisqu'on nous a cité Moïse tout à l'heure, au lieu de faire un calcul auquel la sagesse humaine l'eût inévitablement conduit et par lequel il eût conclu en disant « Je suis à la cour du Pharaon et je pourrais protéger d'un si haut lieu le peuple de Dieu et à coup sûr, je dois interpréter de cette manière les circonstances providentielles qui m'ont placé là. Allons, Moïse insensé, qui renonce à cela et qui s'engage avec le peuple dans leur erreur. Eh bien, nos conducteurs ont fait cela à leur place. Nous ne les avons pas bien payés, vous savez, bien souvent. Même leur mémoire. Mais peu importe. Il y en a un qui sait ce qu'il a produit et qui l'a récompensé, car leur vie est enviable à tous égards. Et ils le seront encore. Alors le danger, c'est que ces valeurs-là, l'argent comme le reste, interviennent pour avoir l'air de soutenir un témoignage. Que Dieu, chers amis, nous garde de cette abomination. La seule puissance dans le royaume de Dieu, je le dis, et je le répète, et c'est ma conviction qu'il est encore pas d'hier, n'est-ce pas? La seule puissance dans le royaume de Dieu, c'est celle du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et il vaudrait mieux que nous n'ayons personne, n'ayons pas un sou à bosse, et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alors, le témoignage du Seigneur, tous ces mots seraient immédiatement guéris.
La parole nous donne
application pratique libératrice. C'est pas car ces choses, ces valeurs humaines, qui, dont l'ensemble constitue moralement le monde tout entier, le royaume de Satan, n'est-ce pas ? Ces valeurs purement humaines et qui sont au service de la volonté humaine, au fond de Satan dans bien des cas, n'est-ce pas ? Elles sont des entraves la plupart du temps parce qu'elles engagent le cœur à aller vers des objets qui ne sont pas Dieu. Et toutes les fois que notre cœur est engagé et lié à des objets qui ne sont pas Dieu, il est évident que notre état n'est pas bon. Nous pouvons être un personnage très considérable, très honnête, très sérieux, avec de longs jours passés avec un caractère de respectabilité humaine, n'est-ce pas, et ayant tous les dons, toutes les valeurs humaines, et avoir manqué notre vie, je parle d'un chrétien, parce qu'au fond, notre cœur s'est nourri de cela dans le secret toute sa vie. Oui. Ah, les vies seront pesées, n'est-ce pas? La vie de chacun sera pesée à une balance qui est juste et sensible. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous nous rappelions que si nous avons le privilège de cette exhortation, de l'invitation à la mort, de quoi? De ces tendances à l'amour des honneurs, tendances à l'amour de l'argent, et par conséquent illusion quant à la valeur efficace de l'argent dans les choses de Dieu. Illusion trompeuse, n'est-ce pas? Tendance à l'amour de... et puis du bien-être, tout ce que ce monde offre. Si nous avons à faire mourir ces tendances, n'est-ce pas? Nous savons comment par ailleurs. Si nous avons le droit, si cette liberté, possibilité nous est offerte, c'est parce que le Seigneur sur la croix, et c'est là encore le passage, les réflexions qu'on vient de nous dire, que nos deux frères viennent de nous dire, le Seigneur sur la croix a supporté pour nous le jugement de Dieu contre toutes ces tendances qui sont en nous. Jésus n'est pas mort pour des êtres abstraits. Il est mort pour des êtres tels que nous sommes, avec toutes nos tendances morales. L'amour de l'argent, c'est une, nous savons, n'est-ce pas, c'est une idolâtrie et autre chose semblable. L'amour de soi-même ne vaut pas mieux. Et un pauvre peut s'aimer soi-même plus qu'un riche aime sa fortune. Nous sommes bien d'accord. Et par conséquent, toutes ces tendances, dont l'ensemble constitue cet être complexe que nous sommes, n'est-ce pas, toutes ces tendances faisaient de nous un être abominable aux yeux de Dieu, et Dieu ne peut pas ne pas s'occuper du mal quand il l'a devant lui, et des méchants quand il les a devant lui. Au lieu de nous rejeter, parce que Jésus est mort pour nous sur la croix, et a reçu la condamnation que méritait toutes ces tendances, tout cet état mauvais foncièrement qui est en nous, il ne nous reste plus à nous que l'exercice de la foi pratique et vivante, de faire mourir ces tendances, c'est-à-dire pratiquement, puisque le compte est réglé avec Dieu quant à tout notre être entier, c'est-à-dire pratiquement, demander à Dieu jour après jour qu'il nous garde de tomber dans l'amour de ceci, dans l'amour de cela, dans l'oubli de la vérité chrétienne et des valeurs chrétiennes. Nous pouvons examiner quelques-unes de ces bonnes choses. Du verset 19. Cet état a commencé vers le 9e siècle. Les siècles 9e, 10e ont été appelés les siècles sombres de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas sur la partie de ce qui attire, la partie infidèle, méchante, corrompue de Thyatire, que nous nous arrêterons à ce verset 19, mais à l'autre partie. Ce qui, pour nous, change du moment que nous venons d'entrer sur ce terrain de Thyatire, c'est que, et ce qui en un sens facilite notre compréhension en partie, c'est que nous entrons dans un domaine actuel. nous entrons dans un état de choses présent, au sein duquel nous nous trouvons. Et il nous est beaucoup plus facile, par conséquent, de reconnaître des traits de l'infidélité de Diatir. Mais les traits de la fidélité de Diatir ne sont pas si faciles que cela à découvrir. Et pourtant, sûrement ils existent dans ce portrait qui est donné là. Je désirais dire un mot de ce qui s'est passé dans les premiers siècles de Diatir, 9e, 10e siècle environ. Même dans Diatir, là, dans cette époque, 10e siècle aussi, il y a eu des hommes éminemment pieux qui faisaient partie de l'état officiel de Diatir. Je peux bien donner un nom qui est connu de tout le monde, n'est-ce pas? Saint Bernard, par exemple. Saint Bernard, c'était un catholique, Bernard de Clairvaux, si l'on veut, et un chrétien tout à fait hors de pair. La seule tâche importante dans sa vie, c'est que ne s'étant pas séparé de cet état ecclésiastique, pourtant qu'il condamnait de la plus verte manière, il l'a soutenu d'un côté en le condamnant de l'autre. Mais quant à sa piété, quant à la puissance de sa piété, c'est un homme qui probablement n'a pas son égal de nos jours. Il ne nous faut donc pas en effet rejeter en bloc par sa ferveur spirituelle. C'est un homme tout à fait extraordinaire. Cette vie, cette concentration de pensée, de méditation et de sentiment en lui a été telle qu'un de nos conducteurs du siècle dernier, le plus connu, le plus remarquable, a écrit quelque part que cet homme, Bernard, est celui qui a eu la plus grande influence de son temps, dans le bon sens, bien entendu. Le frère auquel je fais allusion ne s'occupait pas de l'influence mondaine des gens. Je cite un fait extérieur, on va en citer pas mal, et un homme qui a vécu dans une pauvreté telle, acceptée, voulue, n'est-ce pas, telle, que lorsque des princes de cet état de choses, des princes comme on les appelle, n'est-ce pas, c'est-à-dire des chefs, des têtes, sont venus le voir, ils ont été saisis par l'état de pauvreté dans lequel cet homme acceptait de vivre. Il, en cela, il avait, n'est-ce pas, en cela, il était dans l'esprit de ceux qui, dont Pergame, n'habitaient pas là où est le trône de Satan. Et il a tenu toute une vie de labeur, de peine. Passons sur le fait qu'il a prêché une ou des croisades. Ne nous arrêtons pas trop près à des défaillances de ce genre, à des erreurs de ce genre. Nous qui avons une lumière venue à flot, éclairant tous les éléments de la vie chrétienne, et eux qui n'en avaient que des parties. Mais quant au dévouement, à l'amour pour le Seigneur, l'amour intérieur, et le souci de la gloire de Dieu, certainement nous sommes très loin d'un homme tel que celui-là de Diatir. Absorbé dans ses méditations et dans la communion avec Dieu, il a passé un jour au bord du lac de Genève sans se rendre compte qu'il était là, sans avoir vu le lac. Voilà où la piété vraie et la puissance de Dieu véritable dans un homme peut conduire. Cela ne s'imite bien entendu pas. Il faut, pour poursuivre ces chemins-là, la même puissance qui a agi dans un homme comme celui-là. Mais je suis un peu en marge du verset 19, car cet homme a plutôt sa place dans les versets qui suivent, puisqu'il fait partie de l'état même officiel ecclésiastique de Thyatire, dont le manteau est si vaste qu'il se prolonge jusqu'à nos jours et il couvre toute la chrétienté. Comprenons, comme nous l'avons dit, Sardes, Philadelphie et, on peut dire, Laodicée, ecclésiastiquement parlant. Mais au verset 19, foi, dévouement, patience, peut-être bien qu'on peut y mettre, sans doute, à ce point de vue-là, dans une partie, l'homme dont je viens de parler. Mais, il y en a d'autres, et dont les noms sont moins connus. Il y en a d'autres. C'est la période au cours de laquelle il y a eu des chrétiens qui se sont retirés de la masse corrompue pour vivre dans la sainteté pratique, dans une moralité dans laquelle Dieu n'avait rien à redire. Et qui se sont employés à diffuser les Écritures, à les colporter comme ils ont pu et dans la mesure où ils les avaient en main. C'est l'époque des colporteurs vaudois, par exemple, qui, au prix de leur vie, passaient leurs jours et leurs nuits à effectuer des trajets pour atteindre des régions dans lesquelles ils voulaient faire connaître la parole de Dieu. Le frère auquel je faisais allusion tout à l'heure, je dis cela pour montrer que ce ne sont pas que des lectures profanes qui éclairent sur ces textes, ou en tout cas, si ce sont des lectures profanes, elles ont été aussi faites par d'autres et par des frères qui étaient des hommes de Dieu et dont, par conséquent, le témoignage a une grande valeur. Eh bien, ce frère écrit quelque part que peut-être nulle part au cours de l'Église il y aura eu un dévouement semblable à celui que les chrétiens fidèles des 9e, 10e siècles, ont montré au milieu de l'Église, dans l'état où elle était, et qui s'acharnaient contre eux. Renonçant à leurs aises, et même aux joies légitimes que la nature nous accorde et que Dieu nous accorde dans la nature, eux savaient même renoncer à ces joies légitimes auxquelles nous tenons tant, c'est tout à fait exact, mais que nous faisons passer souvent avant les droits de Dieu, et ceci ne l'est plus. Consacrant ainsi leur vie et la risquant pour rappeler que Dieu est un Dieu saint et que les Écritures sont la vérité. À cette époque aussi se rattache la période et l'histoire sanglante des Albigeois. Et nous savons bien, n'est-ce pas? Et nous savons bien que ces chrétiens-là, albigeois ou autres, et en particulier ceux-ci, n'ont pas été sans tâche quant à la doctrine, et ont été influencés par des erreurs venues d'Orient, cela nous le savons bien. Mais il ne nous est pas permis, à nous qui sommes à notre aise, et qui avons un christianisme extérieur de tout repos, bien que le christianisme véritable intérieurement ne soit jamais de tout repos, et on peut dire soit sans repos, il ne nous est pas permis de nous complaire à critiquer des hommes qui, imparfaitement informés, et dans des conditions où il est étonnant qu'ils soient demeurés fidèles à ce qu'ils connaissaient, il ne nous est pas permis de nous complaire à souligner leurs défauts, leurs fautes. Et comme disait le même frère dont je parlais tout à l'heure, à nous acharner à révéler ses défaillances comme des mouches sur une plaine. Quand le frère parlait ainsi de ses fidèles martyrs et fidèles témoins, pas nécessairement martyrs jusqu'à la mort, visés par ce verset 19, il lui-même, en parlant comme je viens de le dire, ne pas s'attacher à souligner leur défaillance comme des mouches sur une plaque, il visait, n'est-ce pas, tous les professants chrétiens de ces derniers temps, n'est-ce pas, professants, tous ces savants historiens qui aiment bien à fouiller, à chercher dans des textes et qui, se perdant dans des détails, oublient de voir la vraie portée et la vraie valeur de ce qu'ils étudient. Je dis cela et il se peut que cela encourage de jeunes frères et sœurs à s'occuper d'une pareille étude, n'est-ce pas ? L'étude de ce que Dieu a fait en quelque temps que ce soit, et de la fidélité et de la piété qu'il a développée en quelque temps que ce soit, est aussi, ces exemples-là, c'est aussi une nourriture pour la foi, une nourriture. Je pourrais préciser cela en citant des textes de l'Ancien Testament, mais le temps nous manque pour cela. Et c'est plutôt donc une recherche qui peut être présentée à chacun de nous, et n'oublions pas, n'est-ce pas, que nous, encore une fois, qui avons un christianisme extérieurement si facile, n'oublions pas que dans ces époques difficiles, beaucoup moins, où les saints avaient infiniment moins de lumière que nous, n'oublions pas que la plupart d'entre eux, comme encore écrivait le frère de tout à l'heure, quand les juges et les censeurs de ces chrétiens fidèles et imparfaitement enseignés seront, quand ils sont de vrais chrétiens, ces juges et ces censeurs, ils seront face à face avec ces témoins, ces martyrs, dont ils auront souligné les défauts, eh bien, s'il est possible qu'il y ait honte à ce moment-là, la honte couvrira leur visage.
Il y a dans...
L'important, c'est de distinguer les divers groupes de personnes qui sont dans cette lettre. Verset 20, Jézabel. Verset 20, 21, Jézabel. Verset 22, ceux qui commettent adultère avec elle. Verset 23, ses enfants. Et enfin, verset 24, les autres. Ceux qui sont à Thyatire. Autant qu'il y en a qui n'ont pas connu cette doctrine. On pourra donner des développements, je désirais simplement donner un trait pour chacune de ces classes de personnes. Jézabel, c'est l'État. Une femme représente un État dans l'Écriture. L'homme, l'action dans cet État. Nous ne pouvons pas développer tout cela. Elle représente un état de choses. Ce n'est pas un accident, c'est un état. Elle enseigne. Et d'autres en parlent. Ceci pour nous est beaucoup plus facile, encore une fois, parce que nous baignons dans cette atmosphère. Les faits sont autour de nous. En second lieu, nous avons ceux qui commettent l'adultère avec elle. C'est une figure, n'est-ce pas ? Abominable. Abominable. Dieu, c'est Dieu qui fait cela, Seigneur. Dans cette puissance de Jézabel pour faire le mal, il la met dans une position qui la qualifie de la plus honteuse manière. Il ne peut pas y avoir de qualification morale plus honteuse que celle qui est donnée là. Et c'est non seulement grave pour elle, mais c'est grave pour ceux qui ont des rapports avec elle. Parce que la qualification de Jézabel qualifie également la faute de ceux qui ont des rapports avec elle et montre l'énormité de leur péché. Ceux qui commettent adultère avec elle, ceux, cela peut être des chrétiens, dans une grande tribulation. Je cite un exemple. On en trouvera d'autres. Il faut être prudent. Mais je pense que c'est un exemple qui peut être donné. Finlande. Que pourrait être placé dans la catégorie représentée par ceux qui commettent adultère avec elle et qui ont été, qui sont, il y en a de nos jours très certainement, dans une grande tribulation d'âme et de toute manière. Ceux-là ne sont pas placés dans la catégorie des enfants de Jézabel. Les enfants de Jézabel, leur jugement n'est pas une tribulation spéciale qui peut être comme tribulation d'esprit. Très grands exercices de conscience et même persécution par d'autres, n'est-ce pas? La vie de Fénelon n'a pas été facile à bien des égards. Et parallèlement à cela, comme un des enfants de Jézabel, on a donné Bossuet. Il est peut-être plus difficile d'affirmer que Bossuet était un chrétien qu'il n'est que pour le faire, pour faire non. Et en tout cas, c'est sûrement beaucoup plus difficile. Je cite encore des références très sérieuses pour avancer cela, mais chacun de nous peut très bien découvrir des personnes correspondant à ces deux états différents de responsabilité et de culpabilité et par suite de jugement. Cela doit exister d'une façon plus ou moins permanente de nos jours comme de l'époque à laquelle je viens de faire allusion. Les deux places sont différentes. Enfin, nous avons les autres qui sont ceux qui dans cet état de choses ont été gardés, comment Dieu le sait. Il y avait ceux dont nous avons parlé tout à l'heure, et il y en a sûrement d'autres. On est quand même étonné de découvrir quelquefois dans ces milieux-là, de découvrir tout à coup des âmes dont on ne saurait mieux dire qu'elles paraissent être comme des chrétiens d'élite. Il est peut-être bien difficile d'attribuer l'expression « tes dernières œuvres qui dépassent les premières », ces dernières œuvres, les attribuer à une période précise. Mais nous pouvons bien, et nous nous réjouissons de le faire, penser que le Seigneur, au milieu de cet état de choses, duquel de toute évidence nous avons à nous tenir à l'écart, cet état de choses peut couvrir aussi, s'il couvre beaucoup de misère, de péché, il peut couvrir aussi, sans que l'œil des chrétiens le discerne, une fidélité que le Seigneur entretient. Nous lui laissons la vraie réponse et nous la connaîtrons un jour. Quant au cas de Bossuet que j'ai donné tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire que l'exemple de Bossuet est l'exemple d'un enfant. D'un enfant de Jézabel, n'est-ce pas? Quant à sa mort, mourir de mort, ce jugement définitif et complet, cette expression surprenante, évidemment, tout cela nous fait penser à un jugement plus lointain et définitif. Je désirais souligner encore que il y a deux sortes de péchés dans cette situation. Un péché, des péchés d'ordre moral et des péchés d'ordre religieux, n'est-ce pas? La fornication, évidemment. Nous savons que la fornication dans l'Ancien Testament est synonyme, représente aussi l'association avec le monde. C'est figuré également. On pourrait dire, en général, c'est le péché qui consiste à s'approprier, se mettre en rapport avec des choses, s'approprier des choses que Dieu ne nous a pas données, qui nous sont interdites. Et le monde est interdit, était aussi interdit au peuple de Dieu. La fornication et puis les choses sacrifiées aux idoles, c'est un péché religieux. D'autre part, ceux qui sont fidèles à Thyatire, il ne leur est rien demandé d'autre que d'être fidèles dans ce qui leur a été confié et de le tenir jusqu'à la fin. Nous serions sans doute surpris si nous connaissions les états d'âme d'un nombre peut-être assez grand et peut-être très grand de personnes que, d'une façon générale, nous appelons catholiques. Nous aurions peut-être des surprises et quelquefois une humiliation qui nous serait bien profitable. Il y a encore quelques derniers versets très intéressants, mais des frères peuvent développer.
Oui, je crois, puisque le temps, ça va.
Le fidèle de Thyatire aura eu à souffrir de la tyrannie très souvent, et de l'Église, et par conséquent des nations qui sont de connivence avec cette Église. Et il n'aura eu aucune défense, sa portion aura été de souffrir dans la patience. Voilà pourquoi la récompense, elle est très forte à cet égard. Le fidèle sera associé à Christ dans l'exercice de son autorité à l'égard de ses nations mêmes. Les nations avec lesquelles, en un sens, Jézabel est identifiée puisqu'elle a eu des commerces avec elle. Voilà aussi la valeur de cette promesse. Une partie de la promesse. Et l'autre, elle est la même. Le fidèle à Thyatire aura cette joie qu'aura eu celui qui aura compté sur le Seigneur, qui aura eu des rapports secrets avec le Seigneur avant que le jour paraisse. L'étoile du matin, c'est avant le jour. Avant que le soleil paraisse. Le jour, c'est le soleil, c'est le règne millénaire. Et avant que le jour paraisse, le fidèle de Thyatire et le fidèle d'aujourd'hui a des rapports avec le Seigneur à la condition qu'il ne dorme pas, car celui qui dort, évidemment, ne voit pas l'étoile brillante du matin.